Bonjour, je suis Chantal Soutarçon. Bienvenue sur Beauty Toaster, le podcast Beauté et Bien-être. Juste avant la diffusion de notre épisode du jour, j'avais envie de vous faire découvrir Inclusive Beauty, le premier podcast de la Fondation L'Oréal. Inclusive Beauty, c'est une série d'entretiens où Sarah Pébro, comédienne qui a eu un cancer du sein, part à la rencontre d'autres femmes atteintes d'un cancer, les K-Fighters. K pour cancer. Ensemble, elles évoquent leur vécu et leur façon de se réapproprier leur corps. On découvre aussi le témoignage de femmes médecins qui parlent de l'importance de prendre soin de soi physiquement et psychiquement. C'est émouvant, instructif, jamais larmoyant. Au contraire, c'est une grosse bouffée d'oxygène et d'espoir. Inclusive Beauty soutient Beauty Toaster et s'écoute sur toutes les bonnes plateformes de podcast.
Aujourd'hui, tous les conservateurs sont un peu décriés. Hein. En tout cas, les conservateurs dits listés au sens de la réglementation. Parce qu'il y a plein de marques qui commencent à clamer du sang conservateur alors qu'il y en a dedans quand même. Enfin, c'est juste que c'est au sens réglementaire du terme. Il y a une liste. Si vous n'êtes pas dedans, vous n'êtes pas considéré comme conservateur.
Bienvenue sur Beauty Toaster, le podcast Beauté et Bien-être. Aujourd'hui, je reçois Gaëlle Boutry, qui est ingénieur chimiste indépendant et qui a fondé Global Beauty Consulting, une entreprise spécialisée dans la formulation cosmétique, mais pas que. Passionnée par son métier, Gaëlle, c'est un peu le couteau suisse de la cosméto française. De la start-up au grand groupe, il connaît les problématiques de la création par cœur et surtout, il maîtrise toute la chaîne depuis l'idée jusqu'à la sortie d'un produit. Il peut même vous monter une usine de production. C'est donc l'invité idéal pour parler de formules, d'applis, de sécurité, mais également de l'évolution actuelle et future de la cosmétique. Et à cette occasion, certains auditeurs ont pu poser leurs questions suite à un appel sur Instagram. Alors je remercie chaleureusement Fabienne, Alexandrine, Virginie, Romain, Maëlle et Maryse pour leur participation active et leurs questions très pertinentes. Allez, à vos écouteurs, c'est l'heure de Beauty Toaster.
Bonjour Gaëlle.
Bonjour Chantal.
Alors Gaëlle, est-ce que c'est de plus en plus difficile aujourd'hui de formuler des crèmes ?
Alors difficile, tout dépend si on parle, on va dire techniquement, réglementairement, etc. Donc techniquement aujourd'hui, effectivement, ou même avec les contraintes réglementaires, on arrive à faire des choses très intéressantes. Il y en a qui vont voir que effectivement toutes ces contraintes un peu réglementaires, c'est un peu des freins, qui vont râler. Voilà. Nous, on prend ça plus comme un challenge, parce que si on reste dans sur ses acquis, c'est pas amusant. Hein. Donc effectivement, ça, c'est des contraintes qui rentrent, hein, comme peuvent être des paramètres comme le bio, comme le vegan. Moi, je conserve des choses sur le palm fric complètement. Donc effectivement, c'est des challenges techniques, mais qu'aujourd'hui, la profession est capable de relever. Après, c'est vrai qu'il y a... Alors, peut-être que vous me poserez la question plus tard, mais les problématiques des applications, notamment, qui, nous, en tant que scientifiques, nous posent des problèmes, parce qu'en fait, il n'y en a pas une qui dit la même chose. Donc,
ouais, on va en parler. Ouais. Parce que j'ai une auditrice qui pose une question justement là-dessus. Ouais.
Mais c'est plus ça qui va nous poser des problèmes, plus que bon, voilà, aujourd'hui, il y a des alternatives à certains conservateurs, il y a des alternatives à des matières premières qui peuvent être controversées aujourd'hui. Techniquement, on y arrive. C'est des nouveaux challenges pour les formulateurs. Donc, ça, c'est vrai que c'est. Donc, c'est pour ça. Difficile, oui et non, quoi. C'est-à-dire que des fois, il y a des choses qui sont scientifiquement substituable, donc là oui, on arrive à faire des choses. Quand c'est pas du tout rationnel, c'est plus compliqué, quoi.
Ouais. Ouais. Qu'est-ce que c'est une demande pas rationnelle ?
Voilà, typiquement, je veux être OK Yuka, OK Clean Beauty. Ça, c'est pas rationnel parce que du coup, c'est compliqué derrière parce que il y en a pas un qui dit la même chose, quoi. Enfin, j'ai cité celle-là, mais il y en a tellement d'autres applications.
Ouais, c'est clair. Voilà. Et avant l'innovation, dans l'innovation, on était un peu dans la découverte de nouvelles molécules. Et aujourd'hui, on a l'impression que c'est plus du tout ça. L'ère des super molécules, c'est fini.
Alors aujourd'hui, il y a toujours des molécules qui sortent. Encore une fois, là, par contre, la contrainte, elle est vraiment réglementaire, mais elle est réglementaire au niveau mondial et notamment au niveau des Chinois, qui ont une liste positive d'ingrédients. Et si vous n'êtes pas dessus, vous ne pouvez pas vendre en Chine.
D'accord.
Quand on est européen, évidemment. Quand vous êtes en Chine, vous pouvez utiliser toutes les molécules que vous voulez. Et du coup, tous les gens qui vont créer, par exemple, des nouveaux peptides, des choses qui vont être très, très intéressants scientifiquement, que ce soit pour les rides, pour la réparation de la peau, etc. Quand c'est des nouveaux peptides, ils ne peuvent pas utiliser un ancien nom Inky, qui sont les noms sur les listes d'ingrédients. Et donc, du coup, c'est vrai qu'on a un peu moins de nouvelles molécules. Aujourd'hui, c'est vrai que les gens vont essayer de plus développer aussi des actifs d'origine végétale, etc. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, on est moins là-dedans. Par contre, on est plus dans l'innovation galénique ou dans l'expérience consommateur. Comme il y a des marques comme Romy qui ont lancé des machines pour faire des crèmes soi-même, un peu Nespresso de la de la crème. Ou alors maintenant, il y a d'autres challenges sur ce qui est biodégradabilité, etc. Et notamment des gros travaux au niveau des packs. Parce qu'au niveau des formules, on va arriver à faire des choses. Donc, je pense que ça, c'est plus vers là, effectivement, qu'on arrive. Enfin, en tout cas, c'est mon opinion. Hein. Je n'ai pas la prétention d'avoir la science infuse à ce niveau-là. Mais c'est vrai, d'avoir des nouvelles molécules, c'est une contrainte essentiellement réglementaire. Quoi.
Voilà. D'accord. Et alors, dernièrement, en parlant de molécules, j'ai entendu parler de l'acide polyglutamique.
C'est un peu le nouvel Eldorado, entre guillemets. Enfin, nouvelle. C'est une molécule qui est connue depuis très longtemps, qui a quand même été réobjectivée, et effectivement, qui va avoir des propriétés peut-être plus performantes que l'acide hyaluronique, en tout cas en topique, hein, pas en injection ou autre. Ouais. Hein. Donc effectivement, on va être plutôt sur de... Alors, c'est un peu comme l'acide hyaluronique, il y a différents, ce qu'on appelle des poids moléculaires, des tailles de molécules, on va dire, pour parler vulgairement. Et donc du coup, si on est sur des hauts poids, on va être assez similaire à de l'acide hyaluronique. Au poids moléculaire.
Donc on est sur de l'hydratation. Hein,
l'hydratation, et après quand on va sur des plus petites molécules, on va être plutôt sur de l'apaisant.
D'accord. Voilà. Ok.
Voilà. Après, c'est vrai que là, on ressort souvent c'est un peu comme dans la mode, hein, on ressort des anciennes molécules. Mais aujourd'hui, oui, il y a un petit buzz autour de cette molécule, effectivement. Ouais.
D'accord. Et alors, la cosmétique de demain, ce sera quoi? Ce sera quelque chose de plus safe, plus bio, des formules plus courtes? On va vers quoi?
C'est vrai que là, vous parlez de plus safe, de plus bio, de formules plus courtes. C'est déjà une tendance qui est déjà amorcée. Hein. Il y a pas mal de marques. Moi, je vois dans pas mal de mes développements de clients, on me demande maximum 10 ingrédients sur la Stinky. Voilà, donc ça, c'est des choses, effectivement, qui sont demandées. Alors après, moi, ce qui est un peu plus compliqué, c'est sur le plus safe, parce que les molécules, aujourd'hui, qui sont considérées comme safe, peuvent ne pas l'être dans 10 ans, 20 ans. Ouais. Moi, je prends toujours l'exemple de l'amiante. L'amiante, il y a 25 ans, c'était le matériau révolutionnaire. Aujourd'hui, plus personne n'en veut, parce que c'est cancérigène, etc. Ouais. Donc voilà, peut-être qu'on parlera des conservateurs, j'imagine, donc il y aura des questions sur le sujet. C'est pareil, on est revenu à des conservateurs qui avaient été abandonnés il y a 35 ans, parce que il y a des choses qui ont été dites sans vraiment de réalité scientifique, et maintenant le mal est fait. Donc aujourd'hui, ça c'est sur le côté plus safe. Après, moi, c'est vrai que sur la tendance de demain, en tout cas, moi, c'est ma vision. On parlait de biodégradabilité tout à l'heure. Il y a les plastiques dans les océans, des choses comme ça. Donc ça, effectivement, pour moi, il y a un gros challenge au niveau PAC, biodégradabilité, les formules, notamment les formules rincées. Parce que une crème, théoriquement, on n'est pas censé la mettre dans son évier. Mais je pense sur des gels douches, des gommages, des choses comme ça, qui vont effectivement partir dans l'égout après. Donc là, oui, il y a un vrai challenge. Il y a aussi une tendance qui est arrivée, qui est tout ce qui est refill en magasin.
Oui.
Donc justement, pour éviter les packaging, etc., même des nettoyages de packaging en magasin. Ça pose plein de problématiques. Moi, travaille avec des clients qui font ce genre de choses. Ils sont concernés par ce qu'on appelle les bonnes pratiques de fabrication. Donc, c'est faisable. Nous, on le fait. Je l'ai fait pour certains clients. Je suis en train de le faire pour d'autres. On y arrive. C'est juste qu'il faut apporter une certaine rigueur et que, effectivement, quand c'est décliné dans X boutiques, que tout soit bien cadré à ce niveau-là. Donc ça, c'est vraiment des choses, effectivement, qui vont réarriver. Et après, on parlait des conservateurs tout à l'heure. Aujourd'hui, c'est, à mon sens, le challenge de la profession au niveau formulatoire. Et travailler avec des techniques qui existent aujourd'hui, que certaines marques utilisent, comme la stérilisation UHT, des choses comme ça. C'est juste qu'aujourd'hui, c'est inaccessible pour des petites marques.
Et c'est très, très cher.
Le ticket d'entrée, en tout cas, est trop, trop cher.
Il faut une usine avec des normes quasi pharmaceutiques.
Pierre Fabre est capable de le faire, par exemple.
Ouais.
Mais tout le monde ne s'appelle pas Pierre Fabre. Donc, je pense que, par exemple, il y a de l'ultra haute pression qui est aujourd'hui utilisée, par exemple, en agroalimentaire. qui aujourd'hui est peut-être transposable sur de la cosmétique. Mais il y a aussi un travail au niveau des packs, des formules.
Bien sûr.
Je pense qu'il y a des challenges à ce niveau-là qui sont effectivement intéressants. Donc, on a encore de quoi innover en cosmétique.
Hein. Et alors, moi, je vois l'été qui arrive, hein, bien qu'il mette un peu de temps. Je me pose des questions sur les solaires. Est-ce que c'est possible d'avoir des solaires suffisamment protecteurs et non dangereux pour l'environnement ?
Dangereux pour l'environnement, dangereux pour la santé,
ouais.
Parce qu'il y en a qui ne veulent pas de filtres synthétiques, voilà. Parce que c'est de synthèse, d'autres qui ne veulent pas de filtres minéraux avec le titane, le zinc, mais du coup on ne fait plus de solaire. Donc ça c'est un peu compliqué. Donc aujourd'hui effectivement si on parle de protection de l'environnement, aujourd'hui réglementairement parlant, on se retrouve avec une convention qui est la convention de Hawaï, qui effectivement a prouvé scientifiquement que deux molécules, dont le benzophénone 3 et l'éthylhexyl méthoxycinamate, sont dangereux pour les coraux.
Okay.
Voilà. Ça, c'est prouvé. Ça, c'est prouvé. Mais aujourd'hui, de toute façon, les gens qui vont clamer, par exemple, de l'Ocean Protect, j'ai vu des labels sortir comme ça, en fait, c'est ce qui se cache derrière.
Ouais.
Peut-être qu'il y a d'autres choses. Il y a peut-être autres paramètres aussi que la crème solaire, peut-être le réchauffement climatique.
Voilà, c'est comme ce que j'ai entendu dire aussi.
Moi, je travaille beaucoup, par exemple, avec des clients à l'île Maurice, qui sont forcément avec la barrière de corail. Ils sont dans cette démarche-là. Mais effectivement, pour l'instant, il n'y a que cette convention qui a été prouvée. Donc après, tout ce qui est raconté un peu à côté, c'est un peu bullshit, quoi.
Ouais, d'accord. Voilà. Et alors, globalement, est-ce qu'on arrivera un jour à avoir, d'après vous, des produits à la fois sûrs pour nous, enfin, tout produit confondu, hein, pas seulement les solaires, non toxiques pour nous, pour l'environnement, parce que ce sont quand même les enjeux du moment.
Oui, c'est sûr que, de toute façon, ce qui est sûr, c'est que toutes les formules qui sortent sur le marché, même aujourd'hui, qu'elles soient de synthèse, qu'elles soient naturelles, voire biologiques, etc., subissent tous les mêmes types de tests. Donc aujourd'hui, si les gens font les choses dans les règles, c'est toujours pareil, il y a des gens qui contournent les règles dans tout le domaine, ils doivent passer des batteries de tests d'innocuité, de microbiologie, des études toxicologiques, etc. Donc ça, aujourd'hui, le produit qui est mis sur le marché doit être safe. Ça, c'est clair. Et moi, c'est un leitmotiv de mon labo, j'ai pas le choix.
C'est votre travail.
C'est notre métier. Par contre, le problème, c'est que qu'est-ce que ça veut dire, comme on disait tout à l'heure, qu'est-ce que ça veut dire safe ? La molécule d'aujourd'hui, on utilise des alternatives à certains conservateurs, des alternatives au silicone. Peut-être que ça sera plus un cancer dans quelques années.
Ouais.
Mais aujourd'hui, c'est vrai qu'il n'y a pas de. On fait aujourd'hui, nous, on fait une veille réglementaire en permanence. On a des études toxicologiques aussi. On travaille de concert avec des toxicologues qui font ces études-là pour prouver effectivement que les molécules ne sont pas nocives. Mais il y a des études en permanence. Je ne veux pas dire, il y a des alertes au niveau de la presse qui sortent régulièrement. Nous, c'est tous les jours qu'il y a des alertes. Donc, c'est aussi jongler avec ça, la formulation. Après, encore une fois, on n'a pas de boule de cristal, etc. Mais ouais, c'est ça le challenge de demain au niveau des cosmétiques safe. C'est juste
challenge.
Où on met le curseur au niveau du safe.
Tout à fait.
Alors, est-ce que naturel, ça veut dire safe ?
Oui, en plus.
C'est ça,
déjà.
Parce qu'aujourd'hui, nous, on travaille sur les sujets de biodégradabilité, on en parlait tout à l'heure. Il y a des molécules naturelles qui sont moins biodégradables que des molécules de synthèse. Mais ça, dans la tête du consommateur, ça y est, en fait.
Ouais.
C'est prouvé. Il y a des tests de biodégradabilité, c'est des normes CTE, etc. Il y a des molécules de synthèse qui sont plus biodégradables que des molécules, effectivement, de naturelles.
D'accord. Bon, alors, on va commencer avec les questions des auditeurs.
Ça risque d'être encore plus corsé.
C'est ça. Alors, je commence avec les questions de Fabienne, qui habite à Montréal. Alors, la quantité de crème que nous mettons sur le visage peut-elle représenter un danger pour notre santé ?
Alors, la quantité en termes de quantité d'application ou le nombre de couches qu'on peut mettre.
Oui, tout produit confondu, j'imagine.
Alors, il y a deux voies. C'est-à-dire que si on réfléchit effectivement à la multitude des produits qu'on peut mettre, comme peuvent mettre par exemple les Coréennes qui se mettent je ne sais pas combien de couches, 10, 12 couches. Voilà, c'est ça. Vu qu'on arrive sur des molécules où on a un peu moins de recul au niveau sécurité, innocuité, toxicologie, on peut avoir des effets cocktails qu'on ne maîtrise pas. Donc, aussi, ce qui fait qu'il y a une grosse tendance à le retour à la formule courte. Donc ça, effectivement, si on ne maîtrise pas certaines molécules, on peut avoir des effets cocktails qui vont arriver. Et aujourd'hui, aucune marque ne communique là-dessus, en disant qu'il ne faut pas faire le sérum plus la crème, plus, etc. etc.
Bah, elles ont plutôt intérêt au contraire.
Parce que c'est jamais étudié, ça. On étudie le sérum d'un côté, on étudie la crème.
Ouais,
alors, il y a certaines marques qui commencent à faire des associations, mais on est au balbutiement de ce genre de choses. Voilà. Après, pour ce qui est de la quantité, c'est par exemple si donc Fabienne, hein, c'est ça,
oui.
Veut mettre tout son pot de crème anti-rides le matin pour être sûr que ça fonctionne, etc. C'est n'importe quoi, parce qu'en fait, aujourd'hui, les études qui sont menées pour faire des tests, il y a des quantités d'applications. En moyenne, entre guillemets, pour un visage, c'est entre 0,8 et 1,2 millilitres de crème.
Ouais.
Ces études sont faites, d'efficacité sont faites sur ces bases-là. Et puis, c'est pareil, les actifs anti-rides, c'est pas parce que vous allez en mettre beaucoup, que ça va fonctionner beaucoup mieux. D'ailleurs, ça peut des fois faire pire que bien. Voilà. Et puis, c'est pareil, voilà, on va en mettre 1%, 2%, mais après, l'efficacité, elle plafonne.
Bien sûr.
Parce
ouais.
qu'on voilà, on est pas, on reste sur du topique, hein, on
n'est
pas sur de...
On pas sur de l'injection.
Voilà, tout à fait. Ouais.
Alors, une autre question de Fabienne. Est-ce que clean rime avec efficacité? Est-ce que remplacer une molécule issue de la chimie, enfin de la pétrochimie en l'occurrence, par un équivalent naturel peut laisser espérer une efficacité identique en termes d'ortillage ou d'éclat, par exemple?
Ouais. Alors, sur les molécules alternatives à la synthèse, effectivement, généralement, ils essaient d'avoir des molécules aussi efficaces. Il y a des domaines où ça marche très très bien, sur le skincare, etc. Il y a des domaines où ça marche, à mon sens, beaucoup moins bien, qui est le haircare.
Ouais.
Voilà, les gens qui sont habitués à utiliser des shampoings où il y a des PEG, des silicones, etc., ou qui moussent beaucoup parce qu'il y a des sulfates, etc., forcément, ne vont peut-être pas retrouver encore aujourd'hui la même efficacité sur du capillaire. Les labos, enfin, les fournisseurs de matières premières travaillent beaucoup là-dessus.
Ouais.
Après, clean et efficacité, à partir du moment où il y a un claim, il y a un test derrière. Encore une fois, là, il y a un nouveau code réglementaire qui est sorti, applicable au 1er juillet. Même les gens qui disaient au beurre de karité nourrissant devront aussi prouver que la crème est nourrissante.
Ouais, d'accord.
C'est fini, entre guillemets. Alors, c'était pas de la tromperie sur le consommateur, parce qu'on parlait de la matière
ouais,
première.
Ouais, bien sûr.
Mais implicitement, le consommateur, dans sa tête, il se disait oh, bah, c'est bon, ma crème, elle est aussi nourrissante.
Ouais, ouais.
Ou elle est aussi anti-ride. On pouvait encore se cacher derrière.
Ouais.
À partir du 1er juillet 2019,
oui.
C'est fini. Donc,
ouais.
Les marques, aujourd'hui, doivent faire les tests, hein,
les
pour
tests.
Celles qui ne les ont pas faites. Et donc, du coup, c'est beaucoup plus dur, par exemple, pour les petites marques. Quoi.
Exactement.
Parce que
ouais.
C'est des tests, ça peut
ça
aller
peut
entre 3 10 000 euros hein, donc, par produit.
Par produit.
En test d'efficacité, si vous voulez avoir des efficacités mesurées, ouais, ça peut aller jusque là-dessus. Donc, fois X produits dans une gamme, bah, quand une marque fait 200 300 000 euros de chiffre d'affaires, c'est compliqué. Quoi.
C'est compliqué,
ouais.
C'est clair. Ouais. Alors, question d'Alexandrine. Quel est l'impact sur l'environnement des remplaçants des silicones, comme les carbomères ou les cross-polymères?
Les carbomères ou les cross-polymères? Alors, je pense qu'elle a dû faire une petite confusion, parce que les carbomères, ce sont des gélifiants. Dans les silicones, alors je ne suis pas un expert en silicone, parce que je n'ai jamais trop,
ouais,
trop
ouais.
utilisé des silicones dans ma vie professionnelle depuis 13 ans, hein, parce que bah, c'était déjà un
oui.
peu stigmatisé déjà très, très longtemps, notamment pour la biodégradabilité, pour
exactement.
Le coup. Mais il n'y a pas, à mon sens, pas de gélifiant dans les silicones. Alors après, si on parle de cross-polymères, effectivement, il y a des silicones qui sont polymérisés comme ça, mais c'est pas vraiment des substitutions.
Ouais, d'accord.
Donc aujourd'hui, il y a des alternatives aux
oui,
silicones.
Oui, c'est ce que j'allais
vous demander. Alors, il y a quelques années, ils avaient sorti des dérivés de macadamia, etc. Ça marchait super bien. La seule problématique, c'était que quand vous avez un silicone qui vous coûte 3-4 euros du kilo et que le dérivé du macadamia vous en coûte 20 ou 25 euros,
ouais, c'est pas pareil.
Et que vous en mettez la même quantité, il faut que le client il accepte de payer son produit plus cher.
C'est ça.
On n'est pas non plus des magiciens. Donc
ouais.
aujourd'hui, il y a des alternatives qui sont sorties. Qui sont des alcanes verts, des dérivés de squalane, des choses comme
ouais,
ça,
d'accord.
Qui effectivement, là, pour le coup, ont des touchés similaires au silicone. Je parle en skincare, hein,
oui,
parce
oui,
que
oui,
ce que
oui,
je disais
oui.
en haircare, c'est plus
ouais,
compliqué,
ouais, ouais.
Mais qui vont vraiment avoir des touchés similaires.
D'accord.
Alors, les silicones, par exemple, peuvent empêcher d'avoir l'effet, ce qu'on appelle un peu l'effet savon, quand vous mettez une crème, voilà, il y a quelques années, les crèmes bio, c'était comme ça, on mettait, ah, ça faisait blanc sur la peau.
Ouais.
Si on mettait du silicone, c'était un effet anti-mousse, en fait. Bon, aujourd'hui, il n'y a pas d'alternative à ça. Donc, on travaille avec des tensioactifs qui permettent de ne pas avoir d'effet blanc. Voilà.
Et alors, justement, Alexandrine parlait des phénoxyéthanols.
Ah, bon, phénoxyéthanol, parabènes, enfin tous les. Aujourd'hui, ouais. Tous les conservateurs sont un peu décriés. Hein. En tout cas, les conservateurs dits listés au sens de la réglementation, parce qu'il y a plein de marques qui commencent à clamer du sans conservateur, alors qu'il y en a dedans quand même. Enfin, ouais, c'est juste que c'est au sens réglementaire du terme, il y a une liste. Si vous n'êtes pas dedans, vous n'êtes pas considéré comme conservateur. Bon, alors le phénoxyéthanol, pour parler de lui ou des parabènes, bon, il y a eu des études qui sont menées, pareil au niveau scientifique. Si on parle des parabènes, certains parabènes, effectivement, ça a été prouvé que c'était mauvais, mais les autres sont toujours autorisés. Vous en mangez, vous en prenez dans les sirops, etc. Ouais. Donc, est-ce que c'est mieux en ingéré qu'en topique? Voilà. Est-ce que ça passe la barrière cutanée? On peut se poser la question. Et puis, est-ce que, justement, les alternatives à ça, c'est pas non plus pire. Et c'est pareil, moi, dans la tête de tous mes consommateurs, pas des consommateurs, mais en tout cas des marques pour lesquelles je travaille, du coup, qui sont en direct avec leurs consommateurs, ils me demandent tous, par exemple, du sodium benzoate, du potassium sorbate, parce que c'est des conservateurs autorisés par le bio.
D'accord.
Sauf qu'il faut savoir que ces conservateurs-là, ils ont été abandonnés il y a 35 ans, à peu près.
Et pourquoi ?
Parce qu'ils étaient irritants et qu'ils ont été remplacés par les parabènes.
Ok.
Donc, d'accord. On parlait de mode. Bon, bah voilà. Voilà. Mais aujourd'hui. Pour l'instant, j'espère qu'il n'y aura pas de problématique d'innocuité au niveau de ces conservateurs-là. Et en plus, on arrive aujourd'hui à une problématique de sensibilisation de la population, parce que tout le monde utilise le même. Nous, en tant que scientifiques, formulateurs, on est tous de plus en plus réduits en termes de nombre de matières premières pour faire la conservation. Du coup, les gens qui mettent plusieurs produits, on ne met pas qu'une crème, on va mettre ce qu'on disait tout à l'heure, un sérum, etc., ça va se retrouver avec la même molécule. Du coup, toute la population commence à être sensibilisée aux mêmes molécules. Oui. Et là, on n'est plus dans les phénomènes d'irritation, on est sur des phénomènes de sensibilisation de la population. Et ça, au niveau de ce qu'on appelle la cosmétovigilance, donc c'est le recensement de tous les effets indésirables, on voit de plus en plus, alors je n'ai plus les statistiques en tête, mais ça monte de plus en plus au niveau du potassium sorbate notamment.
Pour sensibiliser, peu sensible.
Avec des gens qui, j'ai mis ce produit-là, ça m'a fait une rougeur, c'est constaté par dermato, qu'est-ce qu'il y a dedans? Voilà. Ouais. Alors, il y a aussi des allergènes de parfumerie, clair.
Oui, bien sûr.
Mais en tout cas, il n'y a pas que ça. Mais aujourd'hui, pour parler des conservateurs, voilà. Donc, est-ce que c'est bien, pas bien? Voilà. Bon, aujourd'hui, le phénoxyéthanol, c'est vrai qu'il est suspecté d'être perturbateur endocrinien. Sauf qu'aujourd'hui, c'est du principe de précaution que les marques utilisent parce qu'il n'y a pas de liste officielle de perturbateurs endocriniens.
D'accord.
Voilà. Okay. Il y a des tests aujourd'hui, des laboratoires qui se sont lancés sur. Mais ce ne sont pas des tests qui sont reconnus réglementairement parlant. Ils ont le mérite d'exister. Moi, j'ai même des clients qui font des tests sur leurs formules pour prouver que les formules ne sont pas perturbateurs endocriniens. Ça va loin. Ça coûte cher aussi. Mais aujourd'hui, officiellement, alors ça devrait sortir dans 2019-2020, une liste officielle de perturbateurs endocriniens reconnus et connus. Mais
D'accord.
Comme pour les CMR, cancérigènes, mutagènes, reprotoxiques. Quoi. Voilà.
Alors, il y a Virginie qui pose des questions à propos des huiles hydrogénées. Elle fait le rapprochement entre l'hydrogénation des huiles dans l'alimentaire, qui donne des acides gras trans mauvais pour la santé, et elle se demande si les huiles hydrogénées, notamment les huiles comme les oméga-3, qui contiennent des oméga-3, quand elles sont hydrogénées, si elles ne sont pas, si elles ne deviennent pas pro-inflammatoires et si elles n'accélèrent pas le vieillissement de la peau.
Alors, oui, effectivement, en alimentaire, il y a eu des études qui ont été menées là-dessus. En cosmétique, de toute façon, tous les ingrédients, avant même d'être mis dans les cosmétiques eux-mêmes, subissent eux aussi des tests d'innocuité, même soit purs, soit dosés à 10%. C'est validé par des toxicologues, au même titre qu'on valide des produits finis pour les toxicologues, par les toxicologues, pardon. Donc, il y a des études dessus. Donc, qui prouve effectivement qu'on, par exemple, on sait que certaines molécules, on ne doit pas les mettre à plus de 10% dans la formule. Et ça, c'est des normes. Et nous, c'est notre métier. Par contre, je prends par exemple l'exemple du squalane. Le squalane, c'est du squalane hydrogéné. Alors maintenant, c'est plus du dérivé du requin, évidemment. C'est de la canne à sucre ou de l'olive. Aujourd'hui, le squalane, vous pouvez le mettre à 100% sur la peau. Et c'est pourtant, c'est pas écrit hydrogénétyl squalane. C'est écrit squalane. Mais les gens, ils savent pas que c'est une huile hydrogénée.
Ok.
Et donc aujourd'hui, cette matière-là, vous pouvez la mettre presque à 100% sur la peau. Et avec des super tests d'efficacité. 100%, ça ne sert à rien.
Oui, bien sûr.
Il y a eu des études qui ont prouvé qu'à 5%, il y avait les effets suffisants dans une crème.
Okay.
Bon, j'ai vu qu'il y avait certaines marques qui le vendaient même en sérum pur, etc. Bon, ça, c'est un concept.
Ouais.
au niveau sécurité, c'est pas dangereux. Donc non, il n'y a pas ce parallèle à faire, parce d'accord. qu'encore une fois, on est en topic. Hein.
D'accord, ok. Alors, Romain pose une question sur l'eau. Il dit que l'eau ne peut pas être certifiée, alors qu'elle est évidemment utilisée dans les cosmétiques bio et dans les cosmétiques en général. Hein.
Oui, beaucoup même.
Voilà. Quelle est sa provenance, cette eau ?
Alors, si pour répondre sur la partie bio, effectivement, l'eau ne peut pas être certifiée bio. Hein. Par contre, aujourd'hui, les gens qui font de la cosmétique bio pour monter le pourcentage de bio aisément, ce que font beaucoup de marques, notamment les marques qui vont être plutôt un peu moins chères, on va dire, vont utiliser des eaux de déshydratation de fruits.
D'accord.
De fruits bio, et donc
ah,
du
oui.
coup, l'eau okay. de déshydratation peut être certifiée bio, ou certaines eaux florales. Voilà. Mais effectivement, l'eau en tant que telle, qu'on utilise nous en cosmétique, n'est pas certifiée bio. Alors après, pour parler de l'eau, là, alors c'est un peu de la technique, hein,
ouais.
mais donc on va utiliser différentes qualités d'eau en fonction des typologies de produits, en fonction aussi bah de l'eau de ville de départ, parce qu'on part de l'eau de ville.
Ah oui, d'accord.
Voilà.
Okay.
Ou même quand je travaillais sur des projets en Algérie, on partait même d'eau de puits.
Ok. Hein,
voilà.
Okay.
On creusait dans le fond, et puis après, on venait
dans
faire.
La nappe phréatique, quoi. En fait.
Ouais, ouais, c'est ça. Ouais. Et après, en fait, on allait par différentes batteries de filtres purifier cette eau. Alors, virer effectivement tout ce qui peut être grosse impureté, puis après, on enlève les minéraux. On arrive à une eau qui, grosso modo, l'eau déminéralisée que vous
oui,
mettez dans votre centrale
dire.
De vapeur. Hein.
Ouais, ouais.
Et après, on va même sur des systèmes qu'on appelle l'osmose, l'eau osmosée. Et donc là, on est encore sur une filtration encore beaucoup plus performante pour effectivement avoir une eau quasiment à 100% de la molécule d'eau. Voilà. Et après, même dans certains process, on va jusqu'à mettre un filtre qui est un filtre zéro demi-micron, qui permet de stériliser l'eau qu'on va mettre dans la cuve. Voilà.
Ok. Ouais,
voilà.
Donc,
mais à la base, c'est de l'eau de ville. Voilà, on pourra presque même dire partir de l'eau de pluie. C'est juste que la difficulté, c'est de la standardiser, en fait. Voilà. Au moins, l'eau du robinet, elle est standardisée au niveau potabilité, au niveau de l'OMS, etc. Quoi.
Alors, il nous pose aussi, Romain, une question sur les cosmétiques comestibles, hein, les compléments alimentaires beauté. Alors, je ne sais pas si vous pourrez nous répondre là-dessus. Il se demande sur quelle zone grise jouent les indie brands qui proposent des compléments alimentaires beauté. En clair, voilà, c'est vendu en tant que complément alimentaire, donc un peu parapharmacie quand même, pas loin, mais c'est considéré comme cosmétique. Légalement, c'est trouble, quoi.
Alors, ce qui est sûr, c'est que ça ne pourra pas être considéré comme un cosmétique en tant que tel, même si ça a des vertus sur la pousse du cheveu, il y a pas mal de capsules solaires,
ouais,
etc.,
ouais.
qui facilitent le bronzage. Mais ce n'est pas du tout une réglementation cosmétique. Si on prend la définition du produit cosmétique qu'il y a dans le règlement, etc., c'est, voilà, c'est pour embellir, parfumer la peau. Mais on est en topic, encore une fois.
Ouais, c'est ça.
Là, du complément alimentaire, on est ingéré. Donc moi, je ne suis pas un spécialiste du complément alimentaire, hein, clairement
ouais,
pas.
Ouais.
Mais il y a une réglementation sur les compléments alimentaires. Donc effectivement, ils peuvent avoir des vertus beauté, mais ça ne sera jamais considéré comme un cosmétique. C'est-à-dire que la marque qui va faire ça dans sa marque de cosmétiques, il y a des marques de produits capillaires qui effectivement vont avoir le shampoing, l'après-shampoing, et les capsules anti-chute, les capsules volumatrices, etc. Donc effectivement, il y a des termes cosmétiques. Alors je ne sais pas si derrière, il y a des tests d'efficacité, ça, voilà.
Certains en ont.
Je pense que certains en ont,
ouais,
effectivement.
Ouais.
Hein. Mais derrière, ils doivent monter un autre dossier qu'un dossier cosmétique.
D'accord.
Voilà, donc c'est vraiment deux réglementations bien séparées. Voilà.
Alors, Maëlle pose une question sur les fameuses applis beauté. Elle demande si elles sont scientifiquement fiables.
Alors, c'est un peu ce que je disais,
ouais.
Ouais, effectivement, en préambule
ouais.
tout à l'heure. Le problème, c'est qu'il y en a qui ont flairé le filon. Et aujourd'hui, je trouve que c'est une vraie vertu. Pour le consommateur, dans cette même dans un souci de transparence. Hein.
Ouais, ouais.
Encore faudra-t-il que derrière, ça soit poussé vraiment bien au
c'est
niveau.
Ça.
C'est pas en scannant une liste d'ingrédients que vous pouvez savoir si telle ou telle molécule peut être naturelle ou pas. Je prends toujours, là, j'ai un exemple qui me vient en tête, le butylène glycol. Effectivement, la plupart du temps, il est synthétique. Sauf qu'il y en a qui existent de façon végétale.
Ah oui, d'accord.
Et sur la liste d'ingrédients, il y a impossibilité. Et là, j'ai une cliente qui s'est pris une mauvaise note parce qu'elle avait ça dans sa
ouais.
formule. Elle était obligée de faire la démarche de surveiller déjà que c'était arrivé sur ces applications-là et de prouver que... nous, on a fourni le certificat d'origine de naturalité. Donc là, c'était un dérivé de coco, je crois,
ouais, ouais.
De mémoire. Enfin voilà, d'origine végétale, pour prouver.
Ouais,
et si on n'est pas proactif, c'est ce qu'on se fait vite démonter une marque.
Ouais, ouais, ouais.
à cause de ça.
Ouais, d'accord.
Et ben, avec la vitesse des réseaux sociaux aujourd'hui, ça peut vite faire effet boule de neige.
Ça
quoi.
Peut être, ouais,
donc voilà, c'est un peu la limite. Et puis après, ils surfent aussi, je trouve, sur des on-dit.
Sur
la peur, comme je disais tout à l'heure, ils listent ça, c'est perturbateur endocrinien. Non, il faudrait qu'ils mettent c'est potentiellement perturbateur endocrinien. On applique un principe de précaution.
Voilà.
Aujourd'hui, il n'y a rien réglementairement qui le prouve.
D'accord.
De stigmatiser aujourd'hui un parabène, que ce soit le méthyl ou éthylparabène, par exemple des chaînes courtes, scientifiquement, c'est pas dangereux pour la santé.
Okay.
Mais par contre, voilà, dans l'intellect, ils sont aussi là pour faire du business. Hein, enfin,
ah oui.
Ils sont pas, c'est normal.
Alors,
aujourd'hui, je sais que la FEBA, donc la Fédération des entreprises de la beauté, travaille sur une application justement pour qu'elle soit scientifiquement prouvée. Quoi.
Ouais.
Et puis, encore une fois, il y en a qui disent l'inverse de l'autre. Donc, comment on fait nous au niveau de labo, ce que je disais tout à l'heure, pour formuler correctement, quoi.
C'est ça.
Donc aujourd'hui, je pense que elle gagne à s'améliorer en termes de pertinence scientifique dessus.
Oui,
voilà.
De fiabilité.
Par contre, le fait qu'elles existent, je trouve ça par contre très bien.
D'accord, ouais.
Mais,
ne serait-ce que pour informer.
Mais il ne faut pas non plus que ça vienne... aujourd'hui, je n'ai plus de blacklist dans mes développements. Il faut que ça soit OK UK, OK Clean Beauty. Okay,
ah oui, d'accord.
Non, j'ai plus... avant, les clients me disaient « je ne veux pas de ça, je ne veux pas de ça, je ne veux pas de ça ». Les 100. Maintenant, c'est OK application, quoi.
Ah d'accord. Ouais,
Et donc moi je les ai sur mon téléphone, voilà.
Oui.
Pas parce que je les utilise, mais juste pour vérifier que la liste d'ingrédients que j'ai sortie, elle est bonne.
Elle
quoi.
Correspond.
Quelle note elle va avoir sur telle ou telle application.
Donc, ça limite quand même la créativité et la formulation.
C'est-à-dire qu'en fait, s'ils ne connaissent pas une molécule, ils vont tout de suite avoir un doute et mettre une note moyenne, par exemple.
Ouais, d'accord.
Là, et donc nous, il faut qu'on soit proactif vis-à-vis... Moi, je veux bien discuter avec ces gens-là, il n'y a aucun problème pour essayer de les améliorer et d'améliorer les applications. De toute façon, toute application, toute formule, dans tout domaine, tout est perfectible.
Bien sûr.
Je pense que là, du coup, il y en a même qui sont sortis, c'est n'importe quoi.
Ouais.
Parce qu'ils se sont dit, tiens, ça marche. Nous aussi, on va faire pareil. Quoi.
Mm.
Et voilà. Donc aujourd'hui, je pense qu'elle gagne à s'améliorer.
D'accord. Mais du coup, est-ce que c'est bien d'en avoir plusieurs sur son smartphone? Est-ce qu'il vaut mieux en avoir qu'une? Enfin, c'est compliqué, quoi. Ou est-ce qu'il faut carrément ne pas les avoir?
On sait qu'il y en a qui sont beaucoup plus téléchargées que d'autres, parce que voilà, elles font plus le buzz, ou qu'elles étaient déjà dans l'alimentaire, voilà. Bon, moi, à mon sens, il faudra qu'il y en ait une seule, ou qu'ils se mettent tous d'accord, sauf que ça arrivera jamais.
Ouais, c'est ça.
C'est toujours une histoire
d'argent,
dans cette affaire-là.
Bien sûr, ouais. Et puis elles ne sont pas toutes faites sur le même modèle.
Après, moi, j'ai même une de mes clientes sur une application que je n'ai pas citée toute pour l'instant, qui est une cliente qui crie un peu fort, voilà. Et puis au final, elle a lâché un chèque et elle a eu une meilleure note.
Ok.
Donc c'est plus bon.
Ouais,
donc, qu'elles existent, qu'elles soient réelles scientifiquement, ok. Et nous, on jouera avec. Hein, c'est une contrainte différente, comme on parlait tout à l'heure, des contraintes palm free, vegan, etc. Nous, à partir du moment où on connaît les règles du jeu, mais il ne faut pas que les règles du jeu soient biaisées au départ. Quoi.
Bien sûr, c'est sûr. Alors, il y a Maryse qui dit qu'elle est un peu perdue. Comment bien choisir entre toutes ces marques certifiées bio? Et est-ce que bio rime forcément avec vertueux, efficacité?
Alors... Effectivement, entre les différents labels, Cosmos, Natru, Nature et Progrès, etc., puis la norme ISO qui est sortie sur la naturalité, je comprends que le consommateur lambda soit complètement perdu.
Ouais.
Et encore, les Européens ont fait quand même quelque chose d'à peu près pas mal en se remettant que Cosmos.
Oui.
Aujourd'hui, ce qui est sûr, c'est que si vous voulez acheter un produit bio, certifié, faut qu'il soit certifié par un organisme type Cosmos, Nature et Progrès ou autre label qui ont des niveaux d'exigence équivalents. Donc ça, c'est pareil, c'est le code de la régulation des publicités.
On ne peut pas dire qu'on est bio si on n'est pas certifié.
Voilà.
Ok.
Ça, c'est...
D'accord.
Donc, il faut lâcher un chèque pour avoir le logo, etc. Il y a un cahier des charges pour avoir ces référentiels. Et de l'autre côté, pour dire naturel, il faut répondre à la norme ISO. Voilà. Donc c'est une autre méthode de calcul.
Une autre méthode, ouais.
Mais du coup, on peut se retrouver avec des... Et moi, j'ai eu le cas de clients qui m'ont fait faire leur calcul sur la naturalité selon la norme ISO et selon Cosmos. Je tombe sur des pourcentages complètement différents. Je peux être 100% d'origine naturelle selon la norme ISO et je dis des bêtises, 95% selon Cosmos, mais je peux être aussi 100% selon Cosmos. Donc c'est vraiment deux réglementations différentes.
Okay, ouais.
Donc après c'est plus une éthique personnelle. Alors aujourd'hui on entend effectivement que les gens qui disent de la naturalité, ils utilisent aussi des silicones, etc. Il y en a qui le font et c'est du green bashing. Hein,
ouais, voilà. Mais bien sûr.
Aujourd'hui, nous, dans les développements qui nous sont demandés, 98% de nos développements, c'est ça, c'est soit du bio, et donc là, on suit le référentiel, voilà, c'est clair, c'est 95% d'origine naturelle, on a le droit à quelques matières premières de synthèse, des conservateurs, etc. On a aussi, un pourcentage de bio à respecter, donc qui est 20% hein, sur des produits par exemple non rincés.
Ouais.
Et puis pour soi la naturalité, c'est d'autres règles de calcul.
D'accord.
Donc c'est un peu en fonction de où est-ce qu'on veut aller en termes de réseau de distribution. La plupart du temps, forcément, si vous voulez être vendu dans un magasin bio, il faut être certifié bio. Mais aujourd'hui, quasiment, moi la naturalité me paraît aujourd'hui incontournable.
Ouais,
maintenant, il faut voir au-delà de ça. On parlait de biodégradabilité tout à l'heure. Je pense que toutes les marques ont aujourd'hui, pour lesquelles je travaille quasiment intégralement, demandent de retravailler leur formule actuelle pour les passer justement, virer les silicones, les PEG, etc. Toutes les molécules qui sont décriées. Et l'étape d'après, à mon sens, c'est de travailler sur la biodégradabilité.
Et est-ce que la solution, justement, pour plus être perdu, c'est pas d'aller vers la cosmétique personnalisée?
Alors, la cosmétique personnalisée, effectivement, moi je travaille pour des gens qui font ce genre de choses, hein, effectivement, vont être adaptés au profil de la peau, à l'environnement extérieur, etc. Donc ça, effectivement, ça a ses vertus. On pourra même là, on va avec toutes les données qu'on va avoir sur l'ADN, etc. On va même pouvoir aller hyper loin, avoir sa propre crème. Donc ça, oui, ça peut être une solution. Encore faut qu'il soit maîtrisé réglementairement parlant. Il y a des gens qui ont fait des machines pour ça, pour faire des cosmétiques personnalisés à la maison. Alors il y en a qui font ça, on va dire à la commande sur internet.
Oui.
Mais la problématique est la même,
c'est-à-dire
que on va se retrouver avec des multitudes de possibilités. Forcément, votre peau n'est pas la même que la mienne, que ça soit en termes de typologie ethnique, que ça soit en termes de est-ce que c'est une peau sèche, une peau grasse, etc.
Même de microbiome.
Oui, non, mais voilà, maintenant on parle de microbiome, on n'a pas le même microbiome, c'est sûr.
Ouais.
Mais effectivement, il faut que ça soit maîtrisé réglementairement parlant. C'est-à-dire que s'il y a 1500 combinaisons, évidemment, les marques ne vont pas faire 1500 tests. Hein. On parlait des coups de test un peu tout à l'heure.
C'est inenvisageable.
Financièrement. Personne ne va faire ça, même des grands groupes. Hein.
Ouais.
Donc aujourd'hui, il y a des logiques qui ont été scientifiquement pensées, entre guillemets, entre les labos comme nous, les toxicologues, les fournisseurs de tests, pour avoir des logiques de maximisation du risque. C'est-à-dire qu'on fait un peu des effets cocktails. Si on a 10 actifs potentiellement qu'on peut mettre dans différentes bases, ben on va mettre les 10 actifs, chose qui n'arrivera jamais.
Et on va passer
en test d'inocuité.
Ouais, d'accord, ok.
Et si ça passe, qui peut le plus, l'entraîner, peut le moins.
Oui, voilà.
Mais il faut juste que ça soit bordé.
D'accord.
Et après, il y a cette tendance aussi, do it yourself.
Oui.
C'est la même chose, c'est qu'il faut que ça soit bordé. Les gens, les sites qui donnent des recettes, j'adore ce mot d'ailleurs, ça fait un peu cuisine, on fait de la cuisine quand même un petit peu plus améliorée, mais bon, on s'y fait maintenant.
Ouais.
C'est pareil, il faut que ça soit maîtrisé. Aujourd'hui, il y a des sites qui se sont fait, entre guillemets, attraper par la patrouille, parce qu'ils donnaient des recettes, mais sans forcément, je ne les citerai pas, hein, mais c'est pas mes copains. Voilà. qui donnaient des recettes sans avoir fait les études derrière. Que ce soit les études de tests microbiologiques, d'inocuité, etc. Et ça, je trouve que c'est un réel danger pour la profession.
Sûr, ouais,
parce que
un
problème comme ça pourrait discréditer toute la profession de gens qui font les choses sérieusement. Donc, qu'ils se fassent attraper par la patrouille, c'est normal. Maintenant, il faut qu'ils fassent. Mais voilà, il y a les choses bien. Ouais.
Mm.
Voilà. C'est pareil, tout ce qui est les ateliers qui sortent, etc. Il faut que ça soit maîtrisé, tout ça. Parce qu'on peut vite arriver à des problèmes. Des gens qui vont utiliser des huiles essentielles, par exemple, à très mauvais escient.
Les
huiles essentielles peuvent avoir des vertus, effectivement, mais il faut maîtriser le dosage. Mm. Moi, je me retrouve souvent avec des gens qui ont commencé à faire leurs recettes, comme elles disent, chez eux, et puis qui veulent valider scientifiquement par un labo. Donc déjà, ils ont la bonne démarche.
Oui.
Sauf que moi, je me suis retrouvé des fois avec 2,5% d'huile essentielle de citron sur un produit visage. C'est photosensibilisant. Donc ils ne sont pas informés quand ils vont acheter de l'huile essentielle dans tel ou tel magasin. Il n'y a pas de conseil à ce niveau-là.
C'est
juste mon huile essentielle.
Oui, voilà,
et après, ils font leur tambouille chez eux. Ouais. Bon, je pense qu'il y a une grosse démarche d'encadrement à ce niveau-là pour que les gens soient plus informés, quoi, justement sur ces risques-là. Après, qu'ils fassent n'importe quoi chez eux, entre guillemets, c'est leur problème. Mais à partir du moment où le site internet ou le labo ou la boutique a dit faut l'utiliser à tel pourcent, comme ça, etc., etc., et que le client, lui, choisit de passer outre parce qu'il préfère que le parfum il sorte plus fort, c'est son problème.
Voilà.
Mais par contre, le labo, le site internet aura fait son job.
Ouais. Ok. Bon. Merci beaucoup, Gaël.
Ben, merci beaucoup, Chantal, de m'avoir reçu.
C'était vraiment très intéressant.
Merci.
À bientôt. Au revoir.
Merci de nous avoir écoutés. Vous pouvez retrouver les notes de cet entretien sur le blog beautytoaster.fr. Si ça vous a plu, et pour ne louper aucun épisode, abonnez-vous sur Apple Podcasts, SoundCloud, et n'hésitez pas à nous laisser un avis, surtout une note. Perso, j'adore les 5 étoiles. Et sachez que maintenant, Beauty Toaster, le podcast, est aussi diffusé sur Deezer. Enfin, chaque nouvel épisode est annoncé sur le compte Instagram et la page Facebook de Beauty Toaster. Alors suivez-nous. En attendant, passez une excellente semaine et rendez-vous mercredi prochain à midi.